du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. 10 ans déjà.
Eh oui, c'était il y a 10 ans. Presque jour pour jour, à un jour près, que ce qu'on pourrait appeler le petit peuple du jazz français, avec quand même quelques Américains, s'est retrouvé en Eure-et-Loire, dans l'église de Chéronvilliers, pour les obsèques de Raymond Fonsègue. C'était un moment très poignant. Les musiciens étaient très nombreux. Nous avions joué plusieurs gospels pendant la messe. Et nous avions terminé l'office par Passport to Paradise, le fameux morceau de Sidney Bechet.
Et puis, comme à la Nouvelle-Orléans, les musiciens ont tenu à défiler derrière le cercueil pour l'accompagner jusqu'au cimetière. La planète du jazz, 10 ans après, a tenu à rendre hommage à cet ami trop tôt disparu.
Et si vous vous demandez qui était Raymond Fonsègue et pourquoi il avait tellement d'importance pour nous, eh bien...
On va vous le raconter.
Raymond Fonsègue. J'aimerais bien que vous reteniez ce nom parce qu'on ne parle pas assez de ce genre de personne-là.
Cet homme-là, il a apporté aux musiciens de jazz français, plus peut-être que n'importe qui en France.
Inutile de vous dire que c'était une forte tête, et ses débuts valent la peine d'être comptés. Alors là, naturellement, nous ouvrons le CD-ROM, qui dit tout sur les trompettes, les trombones, car Raymond Fonsègue était tromboniste et tubiste de jazz.
Tubiste, ça veut dire qu'il joue du
tuba. Et l'ouvrage de référence est naturellement « Trompettes et cuivres du XXe siècle » de Michel Laplace. Une somme de 1500 pages où Raymond Fonsègue a un article à lui tout seul. La biographie de Raymond Fonsègue commence comme ceci et on ne saurait mieux dire.
Né à Paris le 27 novembre 1930, d'un père relieur et d'une mère pratiquant le piano, Raymond Fonsègue a une forte personnalité qui a tendance parfois a occulté une maîtrise musicale rare. À Orsay, il débute le piano à l'âge de 6 ans. Pendant les années de guerre, la famille Fonsègue vit repliée dans la banlieue de Bordeaux. Privé de piano, Raymond Fonsègue il étudie le violoncelle au conservatoire de Bordeaux. En cours privé, il s'initie à l'harmonie. La guerre terminée, il est de retour dans la vallée de Chevreuse. Et en 1946, il découvre le jazz. L'année suivante, c'est le choc en voyant le film New Orleans avec Louis Armstrong en vedette. En 1947, il assiste à son premier concert de jazz à l'École normale de musique avec l'orchestre Luther. Et il abandonne le violoncelle pour un trombone que lui prête qui ? La fanfare d'Orsay.
Voilà pour l'entrée en matière, ce très bel exposé de Basin Street Blues, qui a été d'ailleurs enregistré et filmé à la Sauvette par la famille Laplace, l'auteur du texte qui précédait tout à l'heure, lors du festival de Montauban 84, où se trouvaient Raymond Fonsègue et son orchestre. Nous allons revenir un instant sur le choc de sa vie, car le film Nouvelle-Orléans, ou New Orleans, il faut bien le dire, c'est un extraordinaire navet. Mais, dans ce navet, il y a des séquences de musique où Louis Armstrong crève l'écran. Et en voici un extrait, car nous avons la bande sonore de ce film dans nos archives et nous y avons découvert un titre qui s'appelle justement
Raymond Street Blues.
Car il y a à la Nouvelle-Orléans une rue Raymond, alors peut-être un jour on l'appellera Raymond Fonsègue Street Blues, en tout cas il ne l'aurait pas volé. Quel choc et de quoi convertir.
À la suite de ce film, il veut finalement jouer d'un instrument, j'allais dire, typique jazz. Et il jette son dévolu sur le trombone.
Et c'est là qu'il emprunte justement ce fameux trombone à la fanfare voisine de là où il habite.
Et oui, parce que ça coûte cher ces instruments-là. Hein, quand on a 16 ans.
Et comme c'est un homme qui ne reste jamais très longtemps les deux pieds dans le même sabot, il fait des progrès tels au trombone qu'il trouve très vite à jouer à droite, à gauche, dans le voisinage, et puis de plus en plus loin.
Et il devient professionnel.
Voilà. Il devient professionnel. Et là, il fait ses débuts avec des orchestres réputés, avec Michel Attenoux, d'abord, avec qui il remporte un énorme concours d'orchestre. Parce qu'à l'époque, les concours d'orchestre, début des années 50, c'était pas rien.
Hein bon. Ah oui.
Et ensuite, il atterrit chez Maxime Souris.
Bah, c'est quand même pas rien non plus,
et
Maxime
Souris. Non. D'ailleurs, première séance d'enregistrement, si mes souvenirs sont bons, il a dû la faire autour de ses 20 ans.
On n'a pas retrouvé les enregistrements de ses débuts avec Michel Attenoux et Maxime Souris. C'est pas toujours facile à retrouver.
Non, là, ils existent, mais on n'a pas mis la main dessus.
Mais on va vous parler encore d'autre chose. Il ne se contente pas du trombone.
Ah non.
Il est aussi tubiste.
Oui, parce qu'il a compris que certains orchestres ont besoin d'un tuba. Donc il a appris le tuba dans la foulée. Et c'est pas du tout pareil, parce que le trombone c'est à coulisse et le tuba à piston, faut savoir ça.
Ah oui.
Et alors, comme il se considère comme musicien professionnel et jazzman, il a tout de suite compris que musicien de jazz n'est pas un métier. Et que pour faire du jazz, il faut être musicien tout court, c'est-à-dire mettre bout à bout tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on sait faire.
Il a cette notion que finalement la musique, c'est la musique. Et que quand on est pro, on peut faire de la variété, du jazz. Ça, c'est évidemment sa tasse de thé. Mais qu'il n'y a pas de saut métier et il n'y a pas de saut musicien.
Exactement. Il n'y a que de saut de gens, disait ma grand-mère. Et c'est pour ça qu'on va retrouver Fonsec tout le long de sa vie dans l'orchestre du Casino de Paris, des Folies Bergères, ou du Lido, que sais-je. Hein.
Et ça veut dire qu'on est un super technicien.
Ah oui, ça veut déjà dire là qu'on est un grand professionnel.
Voilà.
Il fera d'ailleurs également de l'enseignement et du studio. Et à côté de ça, il peut cultiver son jardin, qui est le jazz. Mais il y a des choses intéressantes quand même à entendre. Et par exemple, le premier orchestre de danse où on le trouve, au tuba, c'est l'orchestre de danse d'Armand Gordon. Vous avez sûrement totalement oublié qui était Armand Gordon.
Et j'avoue que moi-même, je ne sais pas qui voilà. Est Armand Gordon.
Et moi, je ne le sais pas davantage. Mais, on va en écouter un petit bout. Voici tiré de la partie la plus jazz du répertoire Armand Gordon, un morceau Chicago des années 20 qui s'appelle Stomp Off, Let's Go.
We'll be right back.
partir de 1960, il ne se contente plus d'être tubiste, tromboniste.
Chez les autres.
Chez les autres. Il a son propre orchestre.
Et même plusieurs.
Ah oui.
Oui, parce que c'est un homme de projet. Et alors, ce qu'il y a de bien avec Fonseca, c'est que quand il a un projet, généralement...
Il le mène à bien.
Et voilà, il passe à l'acte. Voilà, c'est un passeur à l'acte, ce sacré Raymond. Là, il est devenu totalement incontournable dans le jazz français. Et on le trouve non seulement dans des orchestres à lui, mais également allant faire la pige dans d'autres formations. Et ces orchestres, ils ont toujours une très grande tenue, les orchestres de Fonseca. C'est-à-dire que c'est un type qui ne supporte pas l'à peu près. Donc, quand il fait répéter des gens, il fait répéter des gens, c'est du sérieux. Alors, parallèlement à ça, il ne néglige pas, puisqu'il a l'occasion d'aborder ces répertoires-là, le classique ou la variété, comme tu disais, ou même d'autres formes de musique. Et il cultive le quatuor de trombone. Alors, ça fait beaucoup, naturellement. Inutile de vous dire.
Mais c'est très original, un quatuor de trombone, c'est pas courant quand même.
Tout à fait. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous n'avons qu'une heure pour parler de Raymond Fonseca, nous n'allons faire que survoler le sujet.
Et oui, on ne peut pas tout dire d'un homme aussi polyvalent.
C'est incroyable. Si vous voulez en savoir plus long, je sais pas, allez sur Internet, tapez vidéo, il y en a au moins 50. Bref. Là, nous sommes un peu limités dans le temps, donc on se contentera de dire qu'il a à peu près tout fait et de tirer ce qui nous a le plus interpellé.
Et le voilà avec son premier orchestre. Le Washboard 5. 5, bien sûr, pour dire 5, ils sont 5. Et Washboard, vous savez, c'est ce drôle d'instrument qui est un instrument à percussion. C'est une planche à laver. Le type qui joue du Washboard, il a 10 dés à coudre à ses doigts. Et ding, 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 et zring, zring, zring. Et ça fonctionne drôlement bien. Hein. C'est une vraie petite batterie. Et puis, alors, ça prend pas beaucoup de place et c'est pas cher.
Exactement. Alors, le Washboard 5 a cette originalité que, comme les trois mousquetaires qui étaient 4, ils sont 6. Parce que c'est Raymond Fonseca et son Washboard 5.
C'est ça.
À la trompette, on a un musicien qui va toujours faire partie de ses projets. Quand Fonseca fera de l'enseignement, des ateliers de jazz, etc., on trouvera très souvent Jacques Chrétien, là, pour apprendre aux gens, etc., pour le seconder. Il a comme ça toute une tribu d'amis qui ont toujours été assez fidèles, finalement. J'ai eu l'occasion, moi, de débuter dans les ateliers de formation de Raymond Fonseca. Et ce Chrétien, c'était un très, très bon trompette dont je garde un très bon souvenir. Musical. C'était un homme assez compliqué pour le reste, mais musical, formidable.
Et ce qui compte, c'est la musique, allez.
Et voici deux échantillons de ce que ce Washboard 5 savait faire.
Pour bronzer.
Et le second.
Cake Walking Baby. Il n'est pas toujours avec son orchestre quand même. Hein. Il fait aussi beaucoup de remplacements.
Exactement, et même quelquefois des remplacements de longue haleine. Et par exemple, on va le retrouver à cette époque-là dans le High Society.
De Pierre Atlan. Et on a déjà fait une émission d'ailleurs sur Pierre Atlan.
Ça nous donne l'occasion d'évoquer le second cornet de l'orchestre Atlan, après avoir été celui des Lorientais de Claude Luther, et qui s'appelait Claude Rabanit. Et c'est un type, moi j'aime beaucoup le profil qu'il a. Car Claude Rabanit, c'était un fou du cornet. Il ne travaillait jamais son cornet.
Comme c'est vilain.
Il ne jouait que à l'occasion de soirées en public. Il refusait de jouer les morceaux qui ne lui plaisaient pas. Par exemple, il a quitté Claude Luther parce qu'il ne voulait pas jouer les oignons. C'était un teigneux comme, personnellement, je les apprécie plutôt.
Eh bien, je vais vous donner la définition de Claude Rabanit. C'est un drôle d'outil.
Dans les deux disques qu'on va entendre du High Society avec Raymond Fonseca, au tuba ou au sous-bassophone. C'est Claude Rabanit qu'on entend au cornet, tu sais qu'ils étaient deux cornets, Pierre Merlin et lui. Mais là, c'est lui qu'on entend et on peut apprécier à quel point un type qui ne travaille pratiquement pas peut être éminemment jazz, autant quand il joue en solo que quand il accompagne une chanteuse. Voici
Chinese Blues.
Le blues du carillon, où vous entendrez le piano qui fait le carillon. Et
Jailhouse Blues avec la chanteuse Billy Poole. On a quand même entendu beaucoup de style New Orleans, c'est-à-dire oui. Nouvelle-Orléans. Mais il est vraiment très polyvalent dans sa musique.
Tout à fait. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, hein, il pratique beaucoup de styles et de circonstances diverses. Et en plus, il a commencé à arranger très jeune et c'est un bon arrangeur.
Oui, dans le jazz aussi, donc il est très varié.
C'est un homme d'écriture, c'est un type qui sait faire beaucoup de choses, et puis en plus qui les fait vraiment. Par exemple, là, on va le retrouver dans un big band, d'un style tout à fait différent, et c'est le big band de Roger Guérin.
Et où ça? Au Veldiv. Pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'était que le Veldiv, c'était en réalité une sorte d'immense bâtiment, et à l'intérieur, il y avait un vélodrome. Un vélodrome, et... C'était très connu parce que les gens, à l'époque, vers les années 50, faisaient énormément de vélos. Et on venait voir ces spectacles de coureurs qui...
C'était les pistards et c'était les fameux six jours. Et évidemment, le Veldiv a également été utilisé dans des circonstances tout à fait tragiques. Mais là, nous étions après, nous étions dans les années 50. Voici un passage musicale de ce big band de Roger Guérin, donc en plein Veldiv, avec Fonsègue très virulent au trombone, dans un morceau qui s'appelle
Bugle Cool Rag. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une sonorité un peu particulière. C'est un espace énorme à remplir musicalement. C'était très grand.
Peut-être qu'il faut tourner une page et ouvrir celle de l'apôtre. Car Fonsègue a vraiment été l'apôtre du jazz pour plusieurs générations de musiciens français.
Il fonde en 1965 le Jazz Club de France et il est ouvert à tous.
C'est-à-dire que ce grand professionnel n'a jamais voulu discriminer les amateurs et les professionnels. Son souci a été de rendre les professionnels plus jazz, d'en donner l'enthousiasme des amateurs et de tirer les amateurs vers plus de qualité technique. Non seulement il a fondé le Jazz Club de France qui était un organisme tourné vers les musiciens avec un fichier central où on pouvait trouver ce qu'on cherchait. Tu téléphonais à Raymond. Bonjour Raymond, je viens de monter un orchestre, j'ai pas de trombone, tu connaîtrais pas un jeune qui, que, quoi, dans ou style. Et Raymond te disait, ben écoute, il y a machin, il y a chose, il y a truc, mais il y a peut-être celui-là qui te conviendrait mieux. Oui. Je vais donner ses coordonnées. C'était comme ça.
Et c'était des renseignements très affinés, parce qu'il connaissait tout le monde. Et il pouvait, comme tu dis, présenter celui qui vous convenait le mieux.
C'était assez étonnant, d'ailleurs, comme situation. Alors, le Jazz Club de France était une sorte d'interface de contact entre tout un tas de gens. Et parallèlement à ça, Raymond Fonsègue avait organisé des ateliers de jazz, qu'il appelait les activités dirigées à l'époque, où tout le monde pouvait venir pour commencer à apprendre de quoi il s'agissait, vu sous l'angle de la technique. Et pour avoir pas mal fréquenté ces ateliers de jazz quand j'étais gamin, je peux te dire que les gens qui étaient avec moi, ils ont très souvent fait de très bonnes carrières dans la musique de jazz. Il y a des types qui sont devenus très connus. Et puis, comme ça ne lui suffisait pas, un beau jour, plus tard, dans les années 80, Raymond a décidé de fonder une revue qu'il a appelée Jazz Dixie Swing, ce qui montrait bien ce que représentait le jazz pour lui.
Et oui, il a fondé cette revue de jazz, mais il n'était quand même pas tout seul, même s'il avait un peu le rôle de l'homme orchestre, il fallait quand même qu'il y ait des gens qui l'aident. Et c'est là qu'intervient quelqu'un de très précieux pour lui, c'est sa femme, Francine.
D'ailleurs, Francine Fonsègue, il est évident que nous lui dédions cette émission.
Bien sûr.
Elle a toujours été à ses côtés, c'est la cheville ouvrière de cette revue. Et d'ailleurs, moi je pense que il y a tellement d'amis autour qui y collaborent que cette revue va survivre à son fondateur.
Nous l'espérons absolument.
Mais j'y crois.
La vie de Francine Fonsègue, c'était donc la revue avec tout ce que ça peut comporter comme temps.
Ah oui.
Les coups de téléphone.
Les contacts, Internet, la relecture, les corrections, la mise en page.
C'est impressionnant, ça.
C'est
quasiment un métier.
C'était un couple formé d'un grand bosseur et d'une grande bosseuse.
Oui. C'est vrai. Imaginez-vous qu'elle a même, cette Francine, été jusqu'à apprendre
le tuba.
On ne peut pas être plus fusionnel, n'est-ce pas?
Voilà.
Deux tubas ensemble.
Même nous. Moi, je n'ai pas appris le violon et tu n'as pas appris la trompette.
Et non.
Francine, elle a appris le tuba.
Absolument.
Voilà. Et non seulement elle a appris le tuba, mais elle le tient très honorablement. Et je les ai même vus jouer ensemble en plusieurs occasions. Pour revenir un instant sur les ateliers de jazz dirigés par Raymond Fonsègue, grâce aux infatigables micros de Michel Laplace et de son épouse Lisiane, qui sont toujours à l'affût du film ou du son à prendre, nous avons un écho d'une de ces sessions qui est menée par Raymond Foncet Climam au trombone et également par Fred Gérard, un très brillant trompettiste qui a été un fidèle compagnon de route également pour Raymond Foncet. Alors là, vous allez voir un orchestre de gens qui travaillent et voilà quel résultat on peut avoir avec des gens qui ne connaissaient pas grand-chose en arrivant et qui, au bout de 2-3 jours, commencent à se former dans une sorte de big band avec du résultat.
L'atelier de jazz. Il a toujours, toujours, malgré toutes ses multiples activités, un petit cœur qui bat pour le Nouvelle-Orléans. Il va créer un excellent orchestre, appelé d'un nom rigolo, le Vieux Truc. Et je pense qu'il disait ça beaucoup parce qu'il y avait déjà une espèce de tendance à dire « Ah ouais, mais c'est des vieux machins, tout ça et tout ça. » Alors que c'est une musique, elle n'a pas d'âge.
Non.
On l'entend dans la rue, tout le monde se trémousse. Les jeunes, les vieux, les gens qui connaissent, les gens qui ne connaissent pas. Ça plaît, cette musique. Alors, je pense qu'il a eu beaucoup d'humour en l'appelant le vieux truc.
Et il faut voir le dessin qui allait avec sur la pochette du disque, je dois dire. Dommage que vous n'ayez pas la télévision Radio Margeride.
Allez, essaye de nous le décrire un peu.
Ah non, mais c'est indescriptible.
C'est en noir et blanc. Et il y a Foncet avec une attitude absolument gaulienne, faisant le V de la victoire, à cheval sur une sorte de trombone qui ressemble énormément à une moto pétaradant. Et tout autour,
Il y a des gens absolument charmés, avec des cheveux longs d'époque, n'est-ce pas ? Et qui sont musiciens, cornettistes, trombones.
Ils sont tous dans une tribune et ils l'acclament parce qu'il arrive premier, en fait.
Et Courtois ?
Oui, Courtois, c'est le sponsor. Il y a la banderole de la maison Courtois qui fabrique les trombones et une énorme banderole qui, au lieu de mettre « arrivé », marque « le vieux truc ».
Voilà, et ben c'est génial.
Je dois dire que ce dessin est assez génial et montre que, comme tous les jazzmen qui se respectent, Fonseck savait aussi ne pas se prendre au sérieux.
C'est plein d'humour.
Alors, de ce vieux truc, nous allons vous faire écouter deux morceaux. Crazy Rhythm, d'abord, où le solo de trombone que vous allez entendre de Fonseck, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'il a été très influencé par Vic Dickenson. Et puis, un très beau morceau que Louis Armstrong utilisait comme indicatif et qui s'appelle
« When it's sleepy time, down south ».
Thank you. que nous mettions une parenthèse. Car notre homme était également un chercheur, et un chercheur acharné. C'est-à-dire qu'il a passé également une partie de son activité à rechercher la justesse du son. Et il a inventé un instrument dérivé du piano qui permettait de jouer mathématiquement absolument juste.
Alors, honnêtement, il y a malheureusement si peu de gens qui se rendent compte quand quelque chose est chanté ou joué faux, que c'était un instrument qui était quand même réservé à une certaine élite.
Je crois. Il est d'ailleurs assez compliqué à manier. Mais quand même, ce que j'aime beaucoup, moi, quand je vois quelque chose comme ça, c'est que Fonseca a rajouté sa pierre à un débat qui date de plus de 2000 ans sur la justesse du son. Et ça, c'est quand même pas mal.
Et puis, c'est tout à fait dans la veine de sa vie. Je vais jusqu'au bout, un essai de perfection.
Voilà, et ça s'appelait le super tempérament. D'ailleurs, il avait effectivement lui-même un super tempérament.
On a beaucoup parlé musicien français avec lui, parce qu'il avait quand même été très, très, très présent avec ses musiciens français. Mais il ne faut pas oublier qu'il a eu souvent et avec grand plaisir l'occasion de collaborer avec des musiciens noirs américains.
Et pas n'importe qui, des gens de tout premier plan.
Alors on va vous en donner deux échantillons.
Le premier, au début de sa carrière.
Avec Don Byas.
Ça s'appelle A Portrait of Jenny. Alors évidemment, la vedette du disque est plutôt Don Byas.
Ben, c'est normal.
Mais quand même, il était là.
Il était là.
Le père Raymond. Et le deuxième, avec un ami commun, parce qu'il était très lié avec Cat Anderson, et nous, c'était un de nos grands amis. Cat Anderson était un trompettiste qui s'est notamment illustré chez Duke Ellington.
Avec spécialiste des suraigus, qu'il appréciait correctement, mais Cat n'était pas un fanat du suraigu. Mais on lui demandait.
Non, il savait faire.
Il le faisait.
Mais il savait faire le reste admirablement. C'était un extraordinaire virtuose à trompette. Et la collaboration avec Fonseca a duré pas mal de temps. Ils ont fait pas mal de concerts ensemble en France et en Europe. Et nous conclurons donc notre émission avec un morceau qui s'appelle Black and Tan Fantasy, où Fonseca fait vraiment parler son trombone.
C'est un morceau de Duke Ellington.
Et la particularité de ce morceau, c'est qu'il se termine sur une marche funèbre. Et je pense que cette marche funèbre, placée là par Duke Ellington à l'époque, en souvenir de la disparition de Florence Mills, eh bien, elle est tout à fait de circonstance.
Pour le départ d'un ami.
Et pour la disparition d'un véritable apôtre du jazz. Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.